Bonjour messieurs, dames. Bienvenue pour la conférence de monsieur Ousmane Sow, qui est architecte urbaniste, économiste des transports et environnementaliste à la cellule de préfiguration de l'agence d'urbanisme de Bamako. La ville de Bordeaux est jumelée depuis 17 ans, depuis l'année 2000. Pardon ? Bien, très bien, je vais essayer de parler plus fort. Donc la ville de Bamako est jumelée avec la ville de Bordeaux depuis l'année 2000, c'est-à-dire depuis 17 ans. Et dans ce cadre, il y a des coopérations entre les deux villes qui s'instaurent. Et nous recevons donc M. Ousmane Sow, qui va nous présenter pour la mairie du district de Bamako sa démarche participative pour une politique d'urbanisme et d'aménagement du territoire. M. Ousmane Sow.
Voilà. Merci beaucoup d'être venu écouter cette intervention. Il faut dire que nous venons de loin. Nous venons de loin parce que la ville de Bamako a été toujours gérée de la manière, je dirais, entre guillemets, pompier. Donc, on agit suivant les catastrophes qui arrivent et suivant les situations du jour. On apporte des solutions du jour. Et on n'a jamais pris le temps de s'asseoir et de réfléchir afin de planifier les actions à faire. Et donc, en 2010, il y a eu une prise de conscience de la part des décideurs qui ont initié un premier atelier international avec des équipes venues de la France, notamment l'équipe des ateliers de Sergi Pontoise, et qui invite une série de spécialistes à travers le monde qui réfléchissent pendant 2 semaines sur les problématiques d'une ville donnée et qui proposent des solutions. Et donc ce forum de 2010 a posé les bases de cette réflexion sur les questions de développement durable à Bamako. Puis il en a été suivi par un autre atelier, cette fois-ci en 2011, et ces deux ateliers nous ont permis d'élaborer une vision appelée Bamako Horizon 2030, puisque nous avions commencé les réflexions en 2010, puisque la durée de vie des documents de planification au Mali sont de 20 ans, donc nous nous sommes projetés pour 20 années pour planifier des actions dans une vision appelé Bamako Horizon 2030. Et puis, il a fallu mettre en place une structure qui va piloter cette vision-là. Et cette structure-là, j'ai le privilège aujourd'hui de la diriger, qui s'appelle Cellule de préfiguration de l'Agence d'urbanisme. Donc, nous nous sommes lancés dans la démarche française, c'est-à-dire de mettre en place une agence d'urbanisme sous forme d'intercommunalité, qui va s'occuper désormais de ces questions-là. Et puis, il y a eu un dernier atelier d'opérationnalisation de la vision qui s'est tenu en juin 2014. Et puis, ayant reçu tous ces documents-là, la cellule a élaboré un projet pilote qu'on va vous dévoiler ici, qui est un projet d'éclairage public intelligent dans le cadre du sommet Afrique-France tenu en janvier dernier à Bamako. Donc, la vision Bamako Horizon 2030, tout d'abord une présentation physique de la ville. Il faut savoir quand même que Bamako a été classée la première ville qui croît le plus en Afrique du sud du Sahara. Donc, 5,4% de croissance, de taux de croissance, c'est le plus... Est-ce que... Allô ? Allô ?
Il est revenu. Vas-y, essaye.
Allô ? Allô ? Allô ?
Tiens, celui-ci.
Allô ? Ça va ? C'est bon ? Voilà, donc, il y a un taux de croissance de 5,4, ce qui est le plus élevé en Afrique subsaharienne et qui pose problème et matière à réflexion. Il y a 12,5% de la population totale du pays se trouve à Bamako, avec 80% des industries du pays concentrées cette ville capitale, mais également 80% d'emplois informels. Vous voyez le manque à gagner au niveau du fisc local. Alors, cette croissance s'est traduite de manière spectaculaire en termes d'occupation du sol. Vous voyez ici quatre cartes de 1908 à 2010, un siècle à peine. De cette petite tache dans la carte d'à gauche, nous arrivons en 2010 à une très grande ville qui est difficilement maîtrisable aujourd'hui. Mais des réflexions se sont portées aussi sur la possibilité de faire muter certaines fonctions qui se trouvent en ville aujourd'hui, notamment les camps militaires qui ont été installés là pour des raisons de défense au moment de la colonisation. Et aujourd'hui, leur présence à l'intérieur de la vieille ville ne se justifie pas. Donc, tous ces terrains-là ont été repérés sur une carte qu'on a appelée la carte des terrains mutables, qu'on a proposée aux autorités de l'État pour mener des réflexions dessus. Et il y a des réflexions assez poussées pour la délocalisation d'un camp qui se trouve actuellement au niveau de la zone administrative de l'ACI 2000 à Bamako. Voilà ce que le centre de Bamako ressemble. Une ville de plus de 2 millions d'habitants avec un tel centre. Voilà. Il y a cependant des points d'appui, des nouvelles centralités qui sont sous-employées aujourd'hui et qui peuvent être reconverties pour permettre de créer de nouvelles centralités. Alors, la ville fonctionne de manière déséquilibrée. Le maire vient de le dire tantôt à l'étage. C'est-à-dire, la ville coloniale s'est développée sur la colline et puis tout en bas de cette colline, la plaine a été occupée jusqu'en 1960. Et donc, tous les équipements sont concentrés sur le côté rive gauche du fleuve. Ce qui pose des problèmes de mobilité assez accrus parce que la rive droite qui a été accessible qu'en 1960, après la construction du premier pont sur le Niger, et cette rive droite-là, elle est restée une zone dortoir. Tous les équipements sont concentrés sur la rive gauche, ce qui pose énormément de problèmes de déplacement à Bamako. Les ordures ménagères, Je laisse sans commentaire parce que ça crève les yeux à Bamako. Alors, il faut aussi noter les désordres du pouvoir local. Il y a un pouvoir local éclaté. À Bamako, il y a 6 arrondissements, 6 communes, avec un maire central du district qui n'a pas de territoire. Les autres arrondissements, les 6 arrondissements, ont chacun un territoire. Mais le maire, la mairie du district de Bamako est une collectivité virtuelle, sans territoire. C'est aussi malien. Alors, il y a un projet, le projet de création de l'agence d'urbanisme est en train de se construire dans le cadre de l'intercommunalité qui a parcouru les communes du district, mais également les communes de la périphérie pour les mettre ensemble de manière à pouvoir construire cette agence d'urbanisme. Alors, comme c'est la ville capitale, chacun s'y met de la manière dont il peut. Donc, ça, c'est un projet présidentiel, un échangeur multiple qui est venu de nulle part, qui n'existait dans aucun document de planification, mais qui fut réalisé aux yeux de tout le monde. Et ça, c'est des exemples de projets qu'il faut éviter, justement. Alors, pour résumer la vision en 3 cartes thématiques, là, c'est la carte de l'influence de Bamako sur la zone ouest africaine. C'est qu'on constate que Bamako se trouve pratiquement à égale distance de vol aérien de toutes les capitales qui l'entourent. Et c'est cet atout-là qu'on veut vendre à des compagnies aériennes pour en faire leur hub et pourquoi pas pour en faire des centres de rencontres sous-régionales à Bamako. Alors, la seconde carte, c'est au niveau du déséquilibre des deux rives. et nous avons des points d'appui pour asseoir de nouvelles centralités sur la rive droite. Je vais les développer un peu plus tard. Et la troisième carte, c'est le Grand Bamako, la métropole qu'on est en train de dessiner en intercommunalité avec les communes périphériques, mais qui doit se développer en harmonie avec la nature. C'est pour cela que vous avez la grande tache verte qui est à préserver dans cette démarche-là. Alors, je vais défiler une série de cartes. Chaque fois à gauche, vous avez l'état actuel, l'état de 2010, et à droite, vous avez l'état vers lequel nous voulons arriver en 2030. Donc, cette carte-là, c'est la carte de la voirie qui est aujourd'hui orientée vers le centre historique sur la rive droite. En 2030, il faudra, nous voulons arriver à développer un réseau viaire aussi sur la rive droite. Alors, aujourd'hui, le transport public à Bamako est artisanal. Et en 2030, avec la taille de la ville que la ville va atteindre, il faudra penser à mettre un système de transport structuré, voire un projet de tramway qui a été longtemps discuté ces dernières années à Bamako dans le cadre d'une coopération avec Strasbourg. Alors, un seul centre. Il faudra arriver à développer d'autres centralités sur la rive droite. L'étalement urbain sans limite, vous l'avez vu sur les quatre cartes thématiques tout à l'heure. Il faudra travailler maintenant dans le sens de la densification de l'habitat et des nouvelles centralités. Une seule décharge finale aujourd'hui qui est fonctionnelle. Et vous avez parfois des distances, quand vous venez de l'autre bout de la ville, des distances de 30 à 40 km à parcourir avec les ordures ménagères pour les acheminer vers la seule décharge finale. Alors, l'idée, c'est d'avoir quatre autres décharges finales en 2030 pour que le transport de ces déchets-là ne soit pas trop onéreux. Alors, la ville bénéficie d'un fleuve, d'un grand fleuve, le fleuve Niger. Mais aujourd'hui, ce fleuve est vu comme un handicap parce que tous les égouts s'y déversent sans aucun pré-traitement. Et la ville a tourné dos à ce fleuve. Et en 2030, d'ici 2030, il y a des actions qui sont en cours et des réflexions qui permettent de mettre ce fleuve-là au centre de la ville. Au niveau boulevard de contournement, nous avons un embryon de rocade sur la première carte en jaune. En 2030, il faudra que cette rocade se referme et que nous doublions cette rocade par une deuxième qui recevrait les flux venant des différents ports d'Abidjan, du Sénégal, de la Guinée et même du Burkina Faso, tout le flux qui vient du port de Tema au Ghana. Donc, actuellement, nous avons une ville qui est capitale, mais qui est aussi industrielle, parce qu'elle a en son centre historique une zone industrielle. Et ça, c'est une situation qui devient difficilement vivable. Il faudra sortir tous ces grands équipements-là en périphérie de la ville en 2030. Alors, l'atelier de 2014 était mené dans le sens comment s'y prendre avec une telle vision, avec des grands projets, comment s'y prendre, par où commencer, par quel bout il faudra commencer. Donc, de nouveau, nous avons appelé ces experts avec lesquels on a construit la vision de réfléchir et de tenir compte de l'événement de 2017, le sommet Afrique-France, pour nous indiquer quelles sont les actions qui sont aujourd'hui à mesure d'être prises pour que cette vision s'installe. Donc, de ces réflexions-là sont sorties une série de plans, c'est-à-dire il y a des chaînons manquants de la première eurocadre qu'il faudrait achever. Les chaînons manquants, ce sont les parties qui sont en pointillé ici sur cette carte-là. Qu'il faut arriver à réaliser tout de suite pour que cette rocade puisse enfin se refermer. Alors, il y a un circuit de transport urbain qui va lier la rive gauche et la rive droite avec des véhicules de moyenne capacité, autres que ce qu'on a actuellement avec le transport artisanal. Alors, il y a 7 sites stratégiques qui ont été retenus pour les premières actions à mener. Donc, il y a un quatrième pont qu'il faut réaliser pour que cette rocade-là puisse franchir le fleuve sur ce côté de la ville. Il y a les tronçons qui sont ici en chiffre 2, en pointillé, tout à fait en haut vers la commune de Kati, qu'il faudrait réaliser. Il y a les portes logistiques vers Nyamana, un quartier sur la direction de Ségou. Et puis, il y a le cœur historique de la ville, la gare de Sogoniko. Et puis, il y a la bande des 140 mètres, une large bande de 140 mètres aujourd'hui restée vacante, aménagée pour l'événement de 2017. Et il y a évidemment les camps militaires et les berges du fleuve. Alors, concernant les zones logistiques, les centres logistiques, il y a 3 sites qu'il faut développer. Le site de Kati, c'est-à-dire au nord, qui reçoit le flux en provenance du port de Dakar. Il faut savoir que le Mali, c'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer. Donc, toute la marchandise transite soit par Abidjan, Dakar ou Conakry. Une petite partie transite par le port de Tema au Ghana. Voilà, donc il faut organiser des centres logistiques pour recevoir tous ces flux-là avant de les permettre d'accéder à la ville et ensuite permettre le dispatching avec des véhicules de plus petite capacité. Alors, pour ce qui concerne la rive droite du fleuve Niger, on s'appuie sur le centre commercial Les Halles de Bamako, qui est un centre commercial aujourd'hui conçu il y a une quinzaine d'années, mais qui fonctionne à peine. Et à côté de ce centre commercial, il y a une gare routière aussi qui est en train d'être étouffée par du commerce. Et il y a juste une voie de 2x2 qui sépare ces deux installations. Donc l'idée est de faire en sorte que, puisque la fonction transport de la gare routière est en train d'être étouffée, de la sortir de cette gare routière et de mettre avec le centre, les Halles de Bamako, pour faire un centre commercial moderne pour la ville de Bamako avec un traitement architectural adéquat. Et c'est ça l'idée générale pour pouvoir asseoir une centralité sur la rive droite, parce que cet équipement marchand nouveau va attirer d'autres activités sur la rive droite pour donner vie à cette rive-là et ainsi permettre de résoudre des problèmes de mobilité que la ville connaît. Donc, il y a aussi la réflexion sur le camp militaire appelé la base aérienne B. Cette base aérienne, c'est la tache verte que vous voyez, qui est aujourd'hui un espace tampon entre une zone, la zone des affaires à gauche, appelée la zone ACI 2000, qui n'est rien d'autre que l'ancien aéroport de Bamako des années 60 et qui fut morcelé et devenu le centre administratif par excellence de Bamako. Et à droite, vous avez une zone résidentielle. Et au milieu, entre ces deux-là, il y a ce camp militaire qui fait un espace tampon. Donc, l'idée, c'est de dire à l'État, écoutez, cet espace-là peut servir à autre chose aujourd'hui que de fonction militaire. Et les réflexions sont vraiment menées dans ce sens. Et les militaires ont accepté déjà cette idée-là de délocaliser afin de permettre de relier ces deux parties de la ville avec un traitement urbanistique. Il n'est pas question de tout morceler et de construire des bureaux. Évidemment, il est question d'aménager de manière à avoir un parc, mais de manière aussi à créer une liaison pour que les deux côtés de cette villes-là puissent être reliées par des boulevards. Alors, le fleuve. Comment intégrer le fleuve dans la vie des citadins de Bamako? Et ça, c'est un sujet qui suscite débat. Chaque fois qu'on ressort la question, il y a plusieurs ministères qui veulent s'en accaparer. Et on ne trouve pas le moyen de s'asseoir ensemble et d'aborder la question ensemble afin de sortir des réponses idoines. Donc, lors de ces ateliers-là, nous avons abordé la question à court terme, à moyen et à long terme, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au niveau de ces berges-là. Il faut dire que le fleuve, dans son parcours à Bamako, est assez large parce qu'il fait par endroit 800 mètres de traversée. Donc, c'est plutôt vu comme un handicap de ce point de vue-là. Mais les réflexions, vous allez voir, sont allées dans des aménagements qu'on va voir ensemble. Donc, il faut d'abord commencer par l'espace qui se trouve entre le premier pont et le second pont, un espace de 1 km et demi plus ou moins. Cet espace-là, nous avons élaboré trois hypothèses pour l'aménagement de cet espace-là. Donc, la première hypothèse, c'est de conserver les terres telles qu'elles sont, mais de les protéger pour éviter toute spéculation foncière dessus. La deuxième, c'est de créer une île artificielle au milieu de ce fleuve-là, mais de manière à ne pas permettre au cours d'eau de sortir de son lit. C'est plus complexe à faire. Mais l'idée, c'est que ça permettrait de rapprocher les deux rives avec des ponts piétonniers qui vont relier les deux rives et avec l'aménagement de cette île artificielle avec des activités peut-être marchandes, mais qui restent à définir. Donc l'idée, c'est que la franchise, c'est-à-dire que ce fleuve-là soit vraiment que ça ne soit pas deux villes qui sont juxtaposées à un kilomètre l'une de l'autre, mais de les mettre ensemble en créant une terre ferme à l'intérieur de ce fleuve-là pour leur permettre d'être plus proches l'une de l'autre. Et il y a une deuxième idée, c'est d'éclater cette île-là, de faire deux petites îles avec chaque fois des petits ponts piétonniers pour la traversée du fleuve. Alors, donc, ayant reçu cette vision comme héritage, à notre prise de fonction au sein de cette cellule de préfiguration de l'agence d'urbanisme, nous avions réfléchi qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, par où commencer, sachant bien que les caisses de la municipalité sont vides. Ça, c'est une équation difficile à répondre parce que c'est beau d'avoir des projets, mais il faut quand même espérer sur leur réalisation. Donc, nous avons profité du sommet Afrique-France pour initier un projet d'éclairage tout simplement, mais pas n'importe lequel. Donc, ce projet d'éclairage que je m'en vais vous dévoiler, le concept de ce projet-là, c'est d'éclairer juste et d'éviter tout gaspillage d'énergie, comme on le voit aujourd'hui. C'est un équipement qui est intelligent, qui est commandable à distance à travers une connexion sécurisée Internet et qui permet de donner des instructions au réseau, mais de recevoir aussi également des informations du réseau. S'il y a des pannes, les pannes sont décelées tout de suite. On sait à quelle partie du réseau il y a panne et on envoie les équipes d'intervention sur place. Et quand je dis donner des ordres au réseau, on peut abaisser la luminosité et augmenter la luminosité à travers cette même connexion Internet. Et ceci, l'un dans l'autre, avec l'usage des ampoules économiques, nous amènerait à faire des économies de l'ordre de 30 à 40 %. Et ce qui est extrêmement important, parce que avant de l'installer, nous avons fait un voyage de benchmarking à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand qui est passé à 100%. Alors, donc, on a fait un voyage de benchmarking à Clermont-Ferrand, qui sont passés à 100% à l'intelligence au niveau de l'éclairage public et qui ont fait des économies de l'ordre de 30% en gardant les lampes classiques qu'ils ont. Nous, on a opté pour des lampes LED. Et ces lampes LED-là ont une durée de vie 2 à 3 fois supérieure aux lampes classiques qu'on a actuellement. Donc, avec une extrapolation qu'on a faite à travers ces voyages-là, si on arrivait à étendre ce projet sur l'ensemble des points lumineux de la ville, eh bien, nous ferons des économies de 1 million d'euros par an. Ce n'est pas négligeable. Et c'est ça le côté avant-gardiste de ce projet-là, parce que c'est une première en Afrique subsaharienne d'aller directement à ce système intelligent qui nous permettrait de faire des économies d'énergie et qui est tout bénéfice pour la protection de l'environnement. Donc, 2 avenues sont concernées par ce projet et 2 ponts, le pont des Martyrs et le pont Fade. Et le but essentiel, parce que les 2 avenues concernées par le projet se trouvent justement sur la rive droite, parce que c'est cette rive droite-là qu'on veut... que les activités s'installent. Donc, à travers ce projet d'éclairage public intelligent, nous comptons faire asseoir les activités, ne serait-ce que marchandes, qui vont entraîner d'autres activités avec elles. C'est une idée un peu, excusez-moi du terme, un peu farfelue, mais parfois les idées farfelues sont les meilleures. Et donc, voilà l'image en réalité sur la photo de gauche et l'image de synthèse sur la photo de droite. Et le projet doit être terminé le 10 octobre 2017. Et nous procéderons à l'inauguration au mois d'octobre. Et voilà ce que ça donne au niveau de l'aéroport, avec des pointes bleues et cette lumière diffuse qui n'éblouit pas, parce que le système est installé de manière, on croit que la lampe est éteinte, tant qu'on n'y arrive pas sous la lampe. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de faire beaucoup de bruit au niveau de la ville, également au niveau des visiteurs de la ville, parce qu'on a déjà eu la visite d'une délégation de Ouaga pour ce projet-là. Alors, une fois que nous avons inauguré le projet, nous passons à l'étape, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire tout de suite, parce que vous avez l'expérience, quand vous avez aménagé ici les quais, eh bien, les maisons qui sont en face, ça monte tout de suite. Alors nous, on s'est dit, une fois qu'on a installé cet éclairage-là et que l'inauguration est faite, nous devons élaborer un document d'urbanisme qui soit opposable aux tierces. Donc on va fixer des règles d'urbanisme pour la suite, qui compte transformer son logement, est maintenant opposé à un règlement d'urbanisme qu'il faudra respecter. Et ça, c'est l'étape suivante, et ce n'est pas l'étape la plus facile à accepter par les populations, mais il va de soi, pour la survie du projet, il va de soi qu'on puisse imposer des normes pour donner la façade qu'on voudrait de ces 2 artères-là. Et puis, on mettra en place une observation, c'est-à-dire on va faire l'état des lieux à l'an zéro avant qu'on aille plus loin dans l'éclairage de ces rues-là. Et puis, cet état des lieux est mis à jour annuellement pour voir quel a été l'impact de cet éclairage-là sur ces 2 artères-là. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.
Si vous avez des questions pour Monsieur Ousmane Sow, vous pouvez les poser. On ne voit pas bien. Quelques questions, Monsieur Dame ? Bien, Ousmane, nous vous remercions beaucoup. Ah, très bien.
J'étais au Sénégal il n'y a pas très longtemps et on parlait de construire une voie ferrée qui irait sur le Mali. Est-ce que ça, c'est un projet qui est toujours à l'ordre du jour ? Parce qu'on parlait d'achalander les marchandises depuis Dakar. C'est un gros problème quand même, le fait qu'il n'y ait pas de voie ferrée. Vous en avez entendu parler dernièrement ?
Alors, cette voie ferrée existe déjà depuis l'époque coloniale. Parce que, comme vous le savez, la politique coloniale, c'était d'aller chercher la richesse en profondeur du continent. Donc, elle consistait à faire des voies ferrées pénétrantes des ports vers l'intérieur des terres. Donc, cette voie ferrée existe depuis l'époque coloniale, mais aujourd'hui, c'était des régies étatiques. C'était des régies qui appartenaient aux deux États, la partie sénégalaise à l'État sénégalais, la partie malienne à l'État malien. Mais comme vous savez, ces États-là sont soumis à des règles strictes imposées par les soi-disant bailleurs de fonds. Et donc, le Mali et même le Sénégal a été obligé de céder c'est-à-dire la régie à une concession privée. Au début, c'était une concession, je crois, si ma mémoire est bonne, une entreprise canadienne qui avait repris le volet marchandises et le volet voyageurs était resté à l'État malien. Mais avec ce qu'on constate aujourd'hui comme trafic sur ce réseau-là, le réseau routier est beaucoup plus compétitif que le chemin de fer. Et c'est ça qui est paradoxal. Et c'est tout à fait ça devrait être tout à fait le contraire. Et donc, on a petit à petit abandonné le chemin de fer parce qu'il y a tout simplement les investissements qu'il faut faire dans le réseau ne se font plus. Et il y a de plus en plus des accidents. Et les investisseurs ont peur de confier leurs conteneurs, leurs marchandises à un réseau qui n'est pas fiable. Et le réseau est en train de mourir petit à petit. Ouais. Merci. Est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir ?
Magali ? Excusez-moi. Je te passe, Marie.
Merci. Est-ce que vous avez imaginé une durée de votre étude sur votre document d'urbanisme ? Et est-ce que vous ne craignez pas un risque de coup parti dans l'intervalle de la part de certains propriétaires ou certains constructeurs?
J'ai pas bien compris votre question.
Vous allez élaborer un document d'urbanisme.
Oui.
Est-ce que vous vous êtes fixé un délai? Et est-ce que vous ne craignez pas dans l'intervalle certains coup partis, c'est-à-dire des opportunités d'absence de documents pour que certains propriétaires en profitent ou certains constructeurs?
C'est un risque. C'est un risque, mais je pense que ce document d'urbanisme serait fait d'ici le mois de juin 2018. Mais ça trouvait que déjà, effectivement, les équipements ont commencé à fonctionner. Mais c'est un risque qu'on prend, mais qui reste maîtrisable parce que qui connaît les investissements à Bamako avant de décider et que l'investissement ait lieu, il y a un temps qui s'écoule parce que on a là des gens qui n'ont pas de gros moyens. Et ils sont parfois, c'est vrai, ils sont parfois marchandés par ce qu'on appelle les commerçants qui, sous des bails, des baux, qui proposent aux familles, investissent sur des maisons qui donnent accès aux artères principales. Mais le risque pour que chacun fasse des modifications au sein de sa concession en 6 mois reste minime. Ouais. Mais il faut y aller. C'est une idée qui vient de la cellule et dont on doit encore convaincre l'équipe municipale de la délibération sur cette idée-là, parce que on est là face à des politiques qui n'ont pas l'habitude d'opposer des choses à leur base électorale. C'est aussi, on est dans la politique, hein, vous savez, les élections se dessinent et donc on est dans un champ où il faut être très prudent, ne pas les bousculer, mais les dire de manière, c'est un moyen de faire basculer les activités sur la rive droite, mais il faut que ça soit assorti de ces règlements-là pour qu'on puisse y arriver. C'est pas évident. J'avoue que je travaille avec les maires dans le projet de l'agence d'urbanisme. Il y a des jours, j'ai envie de jeter l'éponge. Mais c'est aussi ça. C'est aussi ça parce que les intérêts sont différents. La périphérie trouve que Bamako n'a plus de territoire et veut aller chercher des terres. Et on s'accuse mutuellement. Et il faut expliquer parfois terre à terre à ces élus-là qui sont parfois, il y a des élus qui n'ont jamais été à l'école. Ça, c'est aussi le Mali, quoi. Donc, vous avez des maires qui ne savent pas lire ni écrire leur nom. Il faut leur expliquer ce que c'est un document d'urbanisme. Il faut y aller. Hein. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ouais.
Merci Ousmane. Merci messieurs, dames, pour votre participation. Bonne fin d'après-midi. Merci.